Bonsoir à tous. L'agglo du Niortais a débattu de ses orientations budgétaires hier soir. Plus de 60 millions d'euros d'investissement sont prévus en 2024. Les communes doivent valider d'ici la fin de l'année des zones d'accélération pour la production des énergies renouvelables. C'était le cas de Mauléon hier soir. Justement, à ce propos, les anti-éoliens du Thouarsais opposés au projet de Saint-Léger de Montbrun. Reportage à suivre dans ce journal. À Bressuire, les animations de Noël véritablement lancées le week-end prochain avec le marché de Noël sur la place Saint-Jacques et le village de Noël sur la place Notre-Dame.
Côté météo, régime d'éclaircies pour demain mercredi.
Florian en parlait dans son flash. Les Deux-Sèvres font partie des départements placés en alerte orange en raison des risques de crues et d'inondations. L'épisode pluvieux va encore se poursuivre un peu alors que les sols sont déjà saturés en eau. Une vigilance particulière est apportée sur la Sèvre nantaise en aval, le Thouy en amont et la Sèvre niortaise en amont. Face à cette situation, la ville de Niort a activé sa cellule de crise. Déjà ce matin, plusieurs rues niortaises ont été fermées à la circulation.
Delphine Bateau, seul député écologiste NUPES à avoir voté contre la motion de rejet.
L'Assemblée nationale a adopté par 270 voix contre 265 ce lundi la motion de rejet déposée par les écologistes relatives au projet de loi immigration. Les groupes d'opposition ont uni leurs voix pour rejeter le débat sur le texte. LR, NUPES et RN ont en majorité voté pour le rejet. La députée de Sèvrienne a fait le choix de voter contre, comme la majorité présidentielle, ce qui en fait une exception à gauche de l'échiquier politique. Que des personnes puissent ou non être soignées, que des enfants nés en France soient ou non français, ça compte. Il y a une limite aux manœuvres parlementaires, celle des conséquences pour la vie réelle des gens, s'indigne l'ex-ministre sur Twitter. Dans la confusion actuelle, il faut tenir sur les principes politiques. Je ne peux pas et ne pourrai jamais voter avec l'extrême droite sur l'immigration. Voilà ce que dit Delphine Bateau.
Les élus de la communauté d'agglomération niortaise étaient réunis hier soir.
Notamment pour débattre des orientations budgétaires 2024. Thierry de Vautour, vice-président en charge des finances, a souligné que le contexte international et national générait pas mal d'incertitudes. Néanmoins, plus de 60 millions d'euros d'investissement sont prévus pour l'année prochaine. Tout budget confondu, Thierry de Vautour.
Les prévisions d'investissement sont comparables aux deux ou trois dernières années, puisque nous sommes résolument dans une politique d'investissement important et structurant, que ce soit sur la question des mobilités, avec les enjeux de décarbonation et donc de renouvellement de notre parc véhicule, mais aussi la construction de nouveaux bâtiments et d'une station de gaz spécifique. Et puis, nous avons aussi évidemment les enjeux d'assainissement de déchets ménagers et avec les particularités aussi de nos grands axes structurants que sont par exemple l'enseignement supérieur. Sur l'aménagement du territoire, c'est principalement le soutien au logement et le soutien particulier que nous faisons par des fonds de concours aux communes. Sur l'activité économique, c'est essentiellement les investissements que nous sommes amenés à faire sur les zones d'activité économique, soit pour viabiliser des nouveaux terrains, soit pour aménager et structurer les terrains déjà existants.
Et parmi les investissements notables prévus par Niort Agglo, 4,6 millions seront consacrés à la future gare Niort Atlantique, dont la livraison est prévue au printemps 2025 avec des financements de la région, de l'État et de l'Europe. Le vote du budget de l'Agglo aura lieu le 8 février prochain.
Mauléon a validé hier soir ses zones d'accélération pour la production des énergies renouvelables.
C'est le branle-bas de combat un peu partout. En France, les communes prévenues en septembre doivent en effet rendre leur copie pour la fin du mois et définir les zones dans lesquelles les énergies renouvelables peuvent se développer dans leur commune, de l'éolien à la méthanisation en passant par le photovoltaïsme. Il s'agit de décarboner la production d'énergie. À Mauléon, il y a eu débat et discussion avec 5 abstentions, dont celle d'un adjoint, Denis Prissé, qui estime que l'on risque d'abîmer le paysage du bocage et qu'il y a deux poids deux mesures entre le développement économique sans cesse ralenti et le développement des énergies renouvelables accéléré dans des proportions inquiétantes selon lui. N'empêche que les zones ont été validées dans la sérénité, ce dont se réjouit le maire Pierre-Yves Marolleau qui rappelle que zone d'accélération ne veut pas dire projet automatique.
On restera maître du jeu ensuite lorsque un projet avancera un peu plus. Ce soir, c'était vraiment l'intention de dire que la ville de Mauléon, peut-être aussi parce qu'on est très engagé dans l'agenda 2030, eh bien, elle est favorable à ce genre de développement qui sont des développements qui, dans les années à venir, de toute façon, il faudra bien trouver des solutions. Et on a voulu montrer notre bonne volonté à la demande de l'État.
Dans le détail, les élus de Mauléon ont décidé d'en rester là pour la méthanisation avec déjà 3 unités sur le territoire communal. Pour les parcs éoliens, il y aura possibilité de densifier les parcs existants, soit par la puissance, soit par le nombre de mâts. Même principe pour la centrale photovoltaïque sur sol dégradé ou pollué avec déjà un site au temple qu'il est possible d'agrandir. Les filières bois, énergie, géothermie, solaire, thermique, en toiture, photovoltaïque, en toiture, récupération de chaleur, cogénération et aérothermie sont inscrits sur l'ensemble du territoire communal. Les ombrières photovoltaïques sont réservées au parking public. C'est finalement l'agri-photovoltaïsme qui a suscité le plus de débats et de discussions, sachant qu'il faut maintenir l'équilibre entre l'activité agricole et le développement de cette filière. Yves Chouteau, adjoint au maire.
D'abord, c'est un concept un petit peu nouveau, hein. L'agrivoltaïsme, moi je ne connaissais pas il y a quelques mois encore, donc c'est vrai que ça nous a déjà pris un petit peu de cours. On est parti du principe qu'il y avait deux modes d'agrivoltaïsme pour nous, donc celui qui serait en périphérie, donc aux abords donc des élevages de volailles labelles, et on en a quand même une bonne quinzaine sur la commune, où on serait favorable à développer donc le photovoltaïque, sachant que sur chaque bâtiment de 400 m², on peut avoir un parc d'un hectare, donc 10 000, et on peut y faire 10% de photovoltaïque, ça fait déjà un beau potentiel de développement.
Il y a un certain nombre de conseillers, d'élus qui ont exprimé leurs réserves, hein, notamment sur le fait d'aller vite, très vite. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, en termes d'énergie renouvelable.
Il y a clairement un équilibre à trouver. Il n'est pas question que les projets de demain soient montés rapidement sans instruction. Chaque projet méritera instruction et on y sera vigilant, évidemment. Après, on sait bien qu'en France, en l'occurrence, sur ces installations-là, on va vraiment beaucoup plus lentement que dans nos pays voisins, en l'occurrence l'Allemagne, où ils sont allés beaucoup plus vite.
Mauléon a donc validé hier soir ses zones d'accélération pour la production des énergies renouvelables.
Les anti-éoliens du Toircé opposés au projet de Saint-Léger-de-Montbrun.
3 de plus, mais 3 de trop pour les opposants à la multiplication des éoliennes dans le Toircé. Ainsi, le projet préparé par la société WPD à Saint-Léger-de-Montbrun, un jet de pierre de toit ranime un vent de révolte chez les associations Nature et Vie et Notre Environnement à Luzet. Les deux associations ont agrafé à l'enquête d'utilité publique qui vient de s'achever un chapelet de remarques visant à faire stopper le projet. Jean-Louis Chanson dénonce quelques bricolages au micro-colline de Dominique Hérault.
Au niveau des paysages, effectivement, il y a un impact en proximité des villages. Et quand on étudie les photomontages, finalement, ils sont faits pour minimiser les impacts. Depuis le château d'Oiron, on aura une vue forcément sur ces 3 éoliennes, contrairement à ce qui est démontré par le promoteur. Le château d'Oiron, le château de Rigny, c'est un paysage considéré remarquable avec la butte de Tourtenay, la butte de Saint-Léger-de-Montbrun. Et après, on a les impacts sur la vie faune. Ce secteur se trouve entre deux zones Natura 2000. Et sur ces zones, il y a l'outarde canepetière, qui est en voie d'extinction à l'échelle nationale. Donc, elle est protégée par ces zones. Dans la vie faune, il y a des espèces qui sont protégées et puis qui sont présentes sur le secteur. Donc, avec les éoliennes de 180 mètres, il y a un risque de collision majeure. Après, on a un problème au niveau de la hauteur des pales. On s'est rendu compte que les pales, la hauteur entre le sol et le bas de la pale, quand ça tourne, et il est inférieur à 50 mètres. Donc là, il y a un risque majeur de collision avec les chiroptères.
Sans oublier le fait que les zones d'existence des chauves-souris se retrouvent à une cinquantaine de mètres de 2 éoliennes quand la norme exige une distance minimum de 200 mètres. Mais à propos de la production électrique, les griefs vont bien au-delà. Jean-Louis Chanson.
Nous, on considère qu'il y a une saturation, ce qui n'est pas considéré par les promoteurs, évidemment. Mais là, ce parc, s'il se fait, il se rajoute aux 3 autres de type R. Après, il y a 2 autres projets qui vont venir à Saint-Cyr-la-Lande et aussi un autre projet qui est en cours par EDF Renouvelable sur Brion-Prétoué. Donc, si on compte simplement dans le Toircé tous ces parcs éoliens, ça ferait au moins une quinzaine d'éoliennes. À cela, ça se rajoute à tout l'air vaudais, hein, qui a déjà très, très impacté. Je crois que les Deux-Sèvres ont beaucoup donné. Donc ça suffit.
La saturation visuelle grignote petit à petit les esprits, y compris sur le lieu d'implantation des machines. Ainsi, à Saint-Léger de Montbrun, l'accord au projet d'éoliennes est passé de justesse au conseil municipal, pas loin du court-circuit électrique. Reportage de Dominique Hérault. L'INSEE vient de publier des données régionales sur la perte d'autonomie. 130 000 néo-aquitains de 60 ans ou plus vivant à domicile sont en perte d'autonomie, soit 7,2% des seniors. Cette part augmente rapidement avec l'âge, assez logiquement. Les personnes de 85 ans et plus sont ainsi 10 fois plus touchées que les 60-74 ans. Un senior à domicile sur 4 déclare au moins une limitation fonctionnelle, le plus souvent due à des problèmes physiques. Les seniors en perte d'autonomie vivant à domicile bénéficient quasiment tous d'une aide de leur entourage, de professionnels de santé ou d'aménagement spécifique.
À Bressuire, les animations de Noël véritablement lancées le week-end prochain.
Les rues de Bressuire et de ses communes déléguées sont illuminées depuis le 2 décembre, mais c'est donc surtout à partir du 16 décembre que la féerie de Noël sera perceptible. Le village de Noël sera ainsi ouvert samedi matin jusqu'au 7 janvier sur la place Notre-Dame, avec notamment 4 petits chalets d'automates, la maison du Père Noël et 2 buvettes animées par des bénévoles d'associations bressuiraises. Alain Robin, adjoint au maire.
À la fois un village de Noël sur la place Notre-Dame, avec en journée des animations autour des vitrines qui seront exposées sur ce village, et puis à la tombée de la nuit, du mapping sur l'église Notre-Dame. Le village, le marché de Noël aussi, place Saint-Jacques, hein, qui maintenant va devenir traditionnel sur ce lieu. Le château qui sera bien sûr éclairé comme les autres années. Et puis la place de l'hôtel de ville aussi avec la maison du Père Noël.
Les chalets avec les automates, ça correspond à la volonté d'animer aussi en journée. C'était peut-être... Alors ça fait partie toujours des améliorations apportées. Là, on est dans cette idée-là.
Oui, effectivement, les autres années, on était sur une ambiance immersive, mais plutôt à la tombée de la nuit. Ce qu'on a voulu cette année, c'est créer une animation aussi en journée pour avoir un pendant à la place Saint-Jacques et donc avoir une animation en journée entre la place Saint-Jacques et le haut de la ville, place Notre-Dame, les 16 et 17, donc le jour du marché de Noël.
N'empêche que chaque soir, des projections lumineuses seront diffusées sur l'église Notre-Dame. Des projections seront également réalisées sur le château de Bressuire. Le traditionnel marché de Noël revient donc également le samedi 16 décembre de 11h à 20h30 et dimanche de 10h à 19h, place Saint-Jacques. Cette année, une cinquantaine de producteurs, artisans et créateurs locaux prendront place. Élise Fier, responsable de l'événementiel à Bressuire.
Plein de nouveaux créateurs, une bonne dizaine de nouveaux créateurs et créatrices qui viendront s'installer sur le marché de Noël.
Alors des démonstrations également?
Oui, des démonstrations de forge, des démonstrations de sculpture sur bois, sculpture sur glace. Un concert le samedi soir avec le Noël de Carabal, la Batucada du conservatoire de Bressuire. Et donc on clôturera le dimanche soir par une parade donnée par la compagnie des Kidam.
Il y a des partenariats aussi avec Luciab et Alexis Camille.
Oui, c'est avec Alexis Camille, c'est traditionnel. Hein. On organisait les années précédentes une marche de Noël. On a vu qu'on était un petit peu en régression sur cette marche de Noël. Il y avait moins de participants. On a voulu continuer le partenariat avec Alexis Camille en leur donnant un stand sur le marché de Noël. Et donc, on pourra venir leur donner des jouets comme les autres années.
La municipalité est donc aussi partenaire de Luciab qui organise des animations les 16 et 23 décembre dans le centre-ville. Enfin, la crèche animée sera évidemment au rendez-vous de ces fêtes de Noël.
Plusieurs accidents ce matin dans le sud des Deux-Sèvres.
D'abord, un poids lourd circulant sur la D611 dans le sens Niort-la-Crèche a traversé le terre-plein central, chevauchant le rail. Il était à 5h50 et c'est l'endormissement du conducteur âgé de 43 ans demeurant à Saint-Martin-de-Saint-Mexant qui explique cette sortie de route sans graves conséquences, hormis des difficultés de circulation avec des déviations jusqu'à 10h30. C'est à peu près l'heure à laquelle un autre chauffeur de nationalité espagnole s'est endormi sur la D948 à Mel en direction de Sauzet-Vaucelles. Il s'est embourbé sur le bas-côté. Là aussi, les dépistages se sont avérés négatifs. Et puis vers 9h15, entre les deux, sur la D744 entre Villiers et Niort, une sortie de route a fait 2 blessés légers, 2 frères de 52 et 58 ans, demeurant à Mervent, transportés à l'hôpital de Niort.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Et après une nuit encore pluvieuse, ça se calme demain ?
Et nous aurons même des éclaircies en matinée. Le ciel redevient toutefois très nuageux dans l'après-midi, mais pas de précipitations a priori ce mercredi après-midi. Il fait un peu plus frais demain, mais c'est encore assez doux pour la saison. 7 degrés demain matin, 10 degrés l'après-midi en moyenne. Le vent souffle plutôt modérément demain.
Merci Fabien. Voilà pour toute l'actu près de chez vous ce mardi. Retour demain matin.
Demain matin à 7h02 précisément avec Patrice Bémanangy. Bonne soirée.
C'était la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.